On va parler de la COVID ce matin. Il y a plusieurs angles qui sont intéressants. D'abord, je rappelle qu'il y a une école qui est fermée à Montréal. Hier, on parlait d'une école à Sherbrooke qui est fermée. Il y a des parents qui doivent faire tester les enfants. C'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les CPE. En même temps, on sait que Pfizer a annoncé que, après étude, le vaccin auprès des enfants donc fonctionne. Il faut maintenant l'approbation des autorités de santé comme Santé Canada. Et entre-temps, on regarde la situation dans les hôpitaux au Québec. Hier, c'était 587 nouveaux cas de COVID, également 9 décès. On a vu une situation évidemment explosive en Alberta. Le docteur Carl Weiss est avec nous ce matin. Docteur Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Ben, je vais commencer par les enfants. D'abord, suite à l'annonce de Pfizer cette semaine pour le vaccin pour les enfants, on peut s'attendre à ce qu'il soit disponible à partir de quand?
Ben, écoutez, ça, c'est, il pourrait être disponible très rapidement. Alors, premièrement, ce qu'on sait, c'est que les études de Pfizer ont été faites chez des groupes d'enfants de 5 à 11 ans. Qu'on a utilisé une dose qui contient le tiers de la quantité, si vous voulez, de vaccins qu'on utilise normalement dans les vaccins qu'on a reçus. Donc, et que les enfants, avec le tiers de la dose, ont une réponse immunitaire qui est égale à celle des adolescents ou des jeunes adultes, ce qui montre que le système immunitaire des enfants est toujours excellent. Et ça, on le sait pour tous les vaccins. Et ça montre que quand vous êtes jeune, vous répondez beaucoup mieux et de façon beaucoup plus intense aux vaccins que la population plus âgée, puisqu'on sait qu'à l'autre extrême, la population plus âgée répond beaucoup moins bien. Donc là, ce sont les études cliniques de phase 3. Il faut évidemment une autorisation de Santé Canada. Il faut une autorisation aussi souvent des autres agences du médicament, comme la FDA aux États-Unis ou l'EMA en Europe. Souvent, ce sont, comme vous avez pu voir, des autorisations d'urgence dans le contexte actuel. Et puis après ça, si c'est accepté, ben là, il faudra commencer à immuniser à large échelle selon ce que les recommandations des comités aviseurs vont suggérer. On s'entend que pour les enfants, ce qui est quand même intéressant de noter, on sait que les enfants sont pas très malades, hein, que là, ce groupe d'âge-là, quand ils attrapent la COVID, ils sont très peu symptomatiques, mais ils sont un réservoir pour transmettre, ça c'est la première chose. Et on sait aussi qu'actuellement, une grande majorité des cas qui testent positif sont les gens de moins de 19 ans, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs au Canada ou ailleurs dans certains pays dans le monde, où on teste beaucoup. On sait que le groupe, si vous voulez, des 0 à 10 ans est entre guillemets surreprésenté. Et puis c'était attendu. Vous avez dit qu'il y a une école qui est déjà en éclosion à Montréal. On s'était déjà parlé à plusieurs reprises. On va en voir des éclosions dans les écoles. C'est inévitable. Ça ne veut pas dire que la situation ne sera pas sous contrôle ou que globalement, à l'échelle du Québec, on ne sera pas capable de contrôler le nombre de nouveaux cas de la COVID.
Qu'est-ce qu'on sait des effets à plus long terme de la COVID? Je voyais ce matin, on citait une étude israélienne qu'en gros 10 % des enfants, même après avoir été testés positifs plusieurs mois après, conservaient quand même certains symptômes, l'effet là, de ce qu'on appelle la COVID longue.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On commence à en apprendre. On n'a pas encore tous les éléments, je dirais, du dossier en question. Ce qu'on sait, par exemple, il y a d'autres études aussi en Grande-Bretagne qui ont montré que les jeunes adultes, donc les gens de moins de 39 ans, qui avaient fait une COVID légère, donc pas une COVID sévère, pas du tout des gens qui ont été hospitalisés, rien du tout, que le tiers d'entre eux, 6 mois après leur maladie, se plaignaient encore de toutes sortes de symptômes, de fatigue, de troubles de concentration, d'incapacité à faire des efforts à long terme, etc. Et là, il y a d'autres études, entre autres en pédiatrie, il y en a plusieurs qui sont sorties, qui disent aussi que, bon, il y a peut-être des problèmes, entre guillemets, de concentration ou de fatigue chez un certain groupe d'enfants. Donc tout ça, ça nous dit, c'est pas encore bien défini, mais ça nous dit que certainement que la COVID a un certain rôle à jouer peut-être dans un effet de symptômes qui persistent à plus long terme. C'est des choses qui vont devoir être définies parce qu'on est vraiment à l'embryon de tout ça. On n'a même pas de test, je vous dirais, pour bien déterminer ce genre de choses-là. Des fois, c'est même frustrant pour nous en médecine parce que c'est des gens qui sont en santé, qui n'ont pas de problèmes sous-jacents et qui se plaignent de symptômes qui sont difficiles à bien déterminer et à bien cerner. Je vous donne un exemple. Vous pourriez avoir quelqu'un qui disait, vous savez, moi, j'étais capable de courir 8 km tous les jours sans problème. Et là, ben, quand j'en cours 2, je suis très fatigué, puis je suis plus capable, etc. La différence, c'est que On n'a pas de test pour montrer que courir 2 kilomètres par jour, vous n'êtes pas en forme. Au contraire, quand on vous fait passer des tests, c'est pour voir si vous êtes malade. Et si vous êtes capable de courir 2 kilomètres sans arrêter et sans être essoufflé, on va dire ben vous n'êtes pas malade. Mais pour la personne en question, d'être passé de 8 à 2 kilomètres, c'est beaucoup. Alors, c'est souvent ce genre de choses-là qui arrive où on n'a pas de moyen diagnostique parfait pour dire oui, en effet, ou non, en effet, vous n'avez pas ce problème-là.
Bon, parlons des cas de COVID. Je disais tantôt que le Québec a enregistré, par exemple, 587 nouveaux cas, 9 décès. Il y a une augmentation du nombre de cas, mais on n'est pas comme, par exemple, durant la troisième ou la deuxième vague, là.
Alors, tout à fait. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au Québec, maintenant, ça fait à peu près, on va dire, 3 semaines que l'école a commencé, grosso modo. Donc, les effets de si vous voulez, des réunions, entre guillemets, à l'école, des contacts à l'école commencent à se faire ressentir. Et on voit que le Québec tient très bien la route, c'est-à-dire que le nombre de cas, peut-être qu'on en a plus si on dépistait plus, mais que globalement, on n'est certainement pas noyé par les cas de COVID au Québec. Que le nombre de cas dans les hôpitaux n'est pas extrêmement élevé, ou il a augmenté sur les 3 dernières semaines, mais pas au point de complètement écraser le système comme on l'a vu dans les vagues précédentes. Et l'autre chose qu'il faut aussi souligner, un grand nombre de cas qui testent positifs sont des enfants ou des adolescents, donc des gens relativement jeunes, relativement peu malades. Par contre, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les gens qu'on voit dans les soins intensifs sont des gens qui sont des non-vaccinés, plus jeunes que ce qu'on voyait dans les vagues précédentes, en bien meilleure santé. Donc, des fois, on peut voir des gens de 40 ans, 45 ans, en pleine forme, non vaccinés, qui finissent aux soins intensifs. Et à l'opposé, on a des gens de 75, 80 ans, doublement vaccinés, cardiaques, en dialyse, avec un cancer, qu'on hospitalise à l'occasion, mais qui vont beaucoup mieux que le premier groupe. Donc, ça vous montre que le vaccin, même s'il n'est pas absolu en termes de protection contre l'infection, c'est-à-dire de tester positif, et ça, toutes les études sont en train de le montrer partout sur la planète, la protection envers l'hospitalisation, la maladie sévère et le décès, elle est là, et là de façon importante.
Ça veut dire en un mot que le vaccin marche, et il est efficace, c'est-à-dire que non seulement il protège, mais quand on est positif, je pense que vous avez un patient, vous le disiez un peu, là, de 76 ans, qui a testé positif puis qui était doublement vacciné.
Tout à fait. J'ai vu hier un patient de 76 ans qui a testé positif, qui était doublement vacciné, quelqu'un qui est en relativement bonne forme. Et c'est un exemple classique de quelqu'un qui, finalement, a eu des symptômes très, très légers. Et je lui dis clairement, je dis, vous savez, ce même patient, si on l'avait vu au cours de la première ou la deuxième vague, il aurait probablement, inévitablement, été hospitalisé ou peut-être même il aurait fini aux soins intensifs. Et donc, on voit l'impact de la vaccination. Non pas forcément pour protéger contre l'infection, même si ça le fait. On sait que les gens vaccinés sont 8 fois moins susceptibles d'attraper le virus et de tester positif. Mais l'effet principal est vraiment sur la protection contre l'hospitalisation, contre la maladie sévère. Puis ça, c'est une anecdote, mais toutes les études montrent ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que toutes les études dans tous les pays montrent ça. Ce qui montre que donc il y a vraiment un effet qui est robuste et qui est persistant, peu importe où on est sur la planète.
Dernière question, et elle me revient souvent de la part des auditeurs, avec le passeport vaccinal, mais puis je vous la résume, là. De quoi ont peur les gens doublement vaccinés face à quelqu'un qui n'est pas vacciné, donc d'être dans le même espace, dans le même restaurant, dans le même gym, si on est doublement vacciné?
Ben, écoutez, la seule chose, c'est bien sûr vous êtes protégé contre la maladie sévère, mais d'un autre côté, vous voulez pas tester positif pour des raisons qui sont évidentes. Je vous donne un exemple. Supposons que nous sommes tous les deux vaccinés, que nous allons au restaurant et que on a des gens qui sont non vaccinés à côté de nous et qu'on finit pour une raison XY, on nous contacte et puis on a des symptômes et on teste positif quelques jours plus tard. Même si on n'est pas très malade, ben, d'emblée, ça vous fait sortir de votre milieu de travail parce que là, vous êtes un cas positif. Donc, ça a des impacts sur la vie de tous les jours. D'emblée, ben, vous pourriez peut-être plus être en contact avec d'autres personnes dans votre entourage immédiat. Donc, ça a des implications, je vous dirais, dans la vie de tous les jours. J'en conviens et on l'a dit, si vous êtes doublement vacciné, la probabilité que vous n'allez pas être très malade et que vous éviterez l'hospitalisation. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a un petit groupe de gens qui sont plus à risque quand même et qui veulent pas non plus être des vecteurs pour d'autres. Par exemple, vous pourriez avoir des parents ou des grands-parents qui, eux, sont fragiles, vous êtes doublement vaccinés et vous voulez pas attraper le microbe parce que vous allez voir vos parents, vos grands-parents et vous deveniez un cheval de Troie pour ces gens-là. Donc, il y a, je vous dirais, c'est une façon de contrôler au niveau épidémiologique, à la grandeur du Québec, la propagation du virus, tout en gardant une vie presque normale, c'est-à-dire de permettre aux gens d'aller au gym, au restaurant, de voir l'économie fonctionner et de voir la vie sociale des Québécois continuer. Donc c'est un équilibre, il n'y a rien de parfait, je vous dirais, dans une société, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux pour essayer de garder une société ouverte, contrairement à ce qu'on a vécu dans le passé. Donc c'est un outil supplémentaire, en plus de la vaccination, en plus des masques, pour permettre, si vous voulez, au virus de ne pas trop circuler dans notre communauté et d'avoir en même temps une vie normale. Et n'oublions pas, c'est un virus qui est là avec nous pour un bout de temps parce que les trois quarts de la planète ne sont pas encore vaccinés ou vaccinés avec des vaccins peu efficaces. Et on a donc encore des cas extrêmement élevés dans beaucoup de pays sur la planète. Surtout là, on arrive en hiver, il ne faut pas oublier non plus que c'est un virus respiratoire. Donc l'hiver est propice à ce genre de virus.
Et on peut dire, sauf erreur, que des gens non vaccinés ont une capacité plus grande peut-être de transmettre la maladie, le virus.
Oui, tout à fait. Alors c'est un excellent point que vous soulevez en plus. C'est qu'évidemment, si vous êtes non vacciné, la quantité de virus que vous allez avoir comparée à quelqu'un qui est vacciné est beaucoup plus grande. Et puis ça encore, ça a été clairement et scientifiquement démontré. Donc c'est pas des choses qui sont théoriques ou qu'on pense qu'ils sont possibles. C'est des choses qui ont été clairement démontrées. Les gens qui sont malades, vaccinés versus les gens malades non vaccinés, les non vaccinés vont excréter beaucoup plus de virus et beaucoup plus longtemps.
Dr Weiss, encore une fois, merci. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Je veux revenir sur le réseau de la santé. Je disais que c'est demain que le ministre Christian Dubé va présenter son plan. Mais, tu sais, si je veux être vraiment terrain, là, je reçois plein de courriels, puis je vous en donne des gens qui ont quitté le réseau puis qui reviendront pas puis qui veulent pas revenir. Et quand je dis que c'est pas juste le salaire, il y a une infirmière qui a dit « Moi, j'ai quitté parce que c'était impossible de concilier ma vie professionnelle et ma vie de famille. Et j'ai fait le choix que ma famille passait avant. » J'ai une autre infirmière qui me dit « J'ai quitté il y a 8 ans, pas pour aller dans une agence, pour aller travailler dans un environnement d'une clinique où j'ai un contrôle sur ma vie. Mais je m'ennuie en même temps des défis professionnels que je pouvais rencontrer à l'hôpital. » Troisième cas, pas infirmière, patient, qui m'écrit et qui me dit « Moi, j'attends pour une chirurgie importante et ça fait 3 fois depuis le début de l'été qu'on repousse ma chirurgie. » Un autre cas qui, on reçoit un appel en disant « Si on vous opère, on peut-tu vous sortir vite de l'hôpital? Y a-t-il quelqu'un qui va s'occuper de vous à la maison? » Si oui, on va vous opérer. Si malheureusement, vous devez rester, ben, on va repousser votre intervention. Fait que ce sont des exemples que je peux illustrer ce matin.